Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Effectivement, comme votre pasteur l'a dit ce matin, je suis là pour vous présenter l'œuvre de la mission. Avec un mandat particulier, ce qu'on appelle les ambassadeurs de l'action missionnaire, comme j'ai été avec ma famille 7 ans en mission, 2 ans au Mali, 5 ans au Sénégal, de 2001 à 2008. On est mandaté à ce titre par l'action missionnaire pour présenter l'œuvre. La belle œuvre de la mission aux églises, et donc on profite de l'échange qu'on a fait. Merci d'avoir permis à votre pasteur de venir à Marignane dimanche dernier, il était en bénédiction. Ce matin donc je vais vous parler de ça, la mission et nous. On peut lancer le diaporama, voilà, parfait, puis j'ai ici l'écran de contrôle, c'est très bien comme ça. Je voudrais vous montrer ce matin que donc le message aura une forme un petit peu particulière. C'est essentiellement axé sur ce thème, la mission dans la parole de Dieu. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que non seulement la mission est dans le plan de Dieu, plus que ça, elle est le plan de Dieu. La mission, c'est la responsabilité de porter la bonne nouvelle du salut en Jésus à toute créature dans le monde. On va revenir au commencement, c'est comme ça qu'on va procéder ce matin, venir à ce qui s'est passé lorsque la bonne nouvelle a commencé à être annoncée au monde entier, puis on va arriver jusqu'à aujourd'hui avec en particulier l'œuvre de l'action missionnaire. Qui étaient les premiers chrétiens? Bon, c'était les disciples de Jésus, hein. C'était des juifs, on est bien d'accord. On peut mettre la deuxième diapo. Ils étaient juifs, donc des Israélites si vous préférez. Plus particulièrement, ils étaient issus d'une province qui est la province de la Galilée. Quelques petits villages au bord du lac de Galilée, presque tous les disciples, hein, Capernaum, Bethsaïda, etc. C'était des provinciaux. Déjà, le territoire d'Israël par rapport à la France, 28 fois plus petit que la France. Israël, c'est l'équivalent de la moitié d'une région française, comme la Lorraine, par exemple. Et les premiers disciples de Jésus, c'était des Galiléens. On le sait, même après la mort et la résurrection du Seigneur, c'était eux qui étaient là, des habitants de ces quelques villages, là, autour du lac de Galilée. On le sait, puisque quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils étaient 120 à ce moment-là, à Jérusalem, ils ont parlé en langue, et les gens qui les ont entendus parler en langue ont dit, on les entend parler dans toutes nos langues, et pourtant, ces personnes qui parlent, ce sont tous des Galiléens. C'était des Juifs originaires d'une petite province, d'un petit pays, 28 fois plus petit que la France. Mais la mission n'a pas commencé en fait en Galilée. La proclamation de l'évangile de Jésus-Christ par les apôtres, ça a commencé à Jérusalem. C'est là que le jour de la Pentecôte en particulier, Pierre a prêché l'évangile. C'est là que le Seigneur, c'est à Jérusalem que le Seigneur est apparu à ses disciples. Après sa résurrection, il leur a justement dit d'attendre à Jérusalem, de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et c'est cette mission qui a été à ce moment-là insufflée, communiquée aux apôtres. Je voudrais relire ce texte fondateur avec vous. On va le trouver ensemble. Donc on va prendre dans la Bible les uns et les autres. C'est dans Actes, chapitre 1er, verset 8. Actes, chapitre 1er, verset 8. Voilà, si vous avez la Bible, vous suivez sur la Bible. Sinon, vous lisez sur la Bible ou la tablette ou le smartphone de votre voisin. Sinon, vous écoutez la lecture. Actes, chapitre 1er, verset 8. Alors, non, s'il vous plaît, on va revenir à la diapo, on laisse les frères et sœurs voilà, trouver tranquillement la référence. Merci. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, dit Jésus, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais qu'on prie ensemble un instant. Le Seigneur. Et là, nous voulons qu'il nous parle. Ta présence, Seigneur, ta parole, et puis l'action de ton esprit maintenant pour toucher nos cœurs. Ce qui est sur ton cœur, nous voulons que maintenant ça soit aussi sur nos cœurs. Parle-nous ensemble. Que ta parole puisse nous marquer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Première phase de la mission que le Seigneur a communiquée à ses disciples, c'est d'évangéliser les Juifs, en particulier à Jérusalem. Et ça, ils l'ont fait d'une manière remarquable. Ils se sont mis à l'œuvre. D'ailleurs, tout de suite, Jésus avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ça n'a pas tardé. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. La foule est accourue. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On dirait qu'ils ont trop bu, etc. Pierre a dit, pas du tout, il est que 9h du matin. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et il a prêché l'évangile. Il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Vous devez croire en lui. Toute personne qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvée. Et ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. C'est dans Actes chapitre 2, verset 41. Un petit peu plus loin, il est dit, alors voilà, s'il vous plaît, parfait. Verset 47, il est dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 3000 le jour de la Pentecôte, chaque jour des nouvelles personnes qui se convertissaient au Seigneur. Quelle joie, quelle croissance de l'Église, où ça ? À Jérusalem. On est bien d'accord. Chapitre 4, verset 4, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes uniquement, à environ 5000. Suite à la guérison d'un paralysé, de nouvelles foules se tournent encore vers le Seigneur. Chapitre 5, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Vous voyez, il y a un effet d'accélération dans l'évangélisation des Juifs à Jérusalem. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres, c'est-à-dire des descendants d'Aaron, obéissaient à la foi. Une grande foule, c'est-à-dire des multitudes, vous vous rendez compte, juste des descendants d'Aaron, une famille en Israël. Il y en avait des foules, c'est vous dire à quel point l'ordre du Seigneur de proclamer l'évangile à Jérusalem a été bien accompli avec succès et avec zèle par les apôtres. Ce qui nous amène à voir quelques années plus tard, dans le chapitre 21, verset 20, l'apôtre Paul visite l'église de Jérusalem et on lui fait remarquer ceci. Le texte est affiché, hein, vous pouvez suivre avec moi là au vidéoprojecteur. On a dit à Paul, tu vois frère, combien de milliers de juifs on compte parmi les croyants, et tous les croyants en Jésus-Christ, et tous sont zélés pour la loi. Le mot qui est traduit ici par milliers, littéralement myriades. Ça signifie dizaines de milliers, mais ce n'est pas toujours employé dans ce sens précis, technique de dizaines de milliers. En fait, ça veut dire des multitudes de personnes. L'église de Jérusalem, en quelques dizaines d'années, était passée de 120 à des multitudes qui connaissaient, qui servaient, qui se confiaient dans la personne du Seigneur Jésus. Première phase de l'accomplissement de l'ordre missionnaire, allez, 20 sur 20, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'évangélisation de la Judée et de la Samarie. On revient parfait à la carte de Jérusalem. Le Seigneur avait dit dans toute la Judée. La Judée, c'est la région autour de Jérusalem. Comme si vous voulez, Marseille, c'est la capitale de la Provence. Et puis la Provence, c'est la région, en quelque sorte, qui est autour. La Samarie. Eh bien là, ça ne s'est pas fait d'une manière aussi naturelle et aussi spontanée. Le Seigneur l'avait dit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, bon ça ils l'ont fait, dans la Samarie. Mais pour que ça s'accomplisse, il a fallu que le Seigneur les pousse. Un petit peu comme les petits oiseaux sont poussés hors du nid par leurs parents. Voilà ce qui est écrit, on va le mettre s'il vous plaît, la référence dans Actes chapitre 8, verset 1er. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, où il y avait des foules. Et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de la Judée, même la Judée, la carte que je vous avais montrée tout à l'heure, on peut rester ici, même la Judée, en fait, ils n'y étaient pas tant allés que ça, ils étaient restés à Jérusalem, et dans les diverses régions de la Samarie. Versets 4 à 8, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Pourtant, Jésus l'avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, sans parler du reste. Mais eux, ils étaient restés à Jérusalem avec tellement de zèle, avec tellement de succès, sauf que le reste de la mission restait à accomplir. Et voyez qu'en réalité, le Seigneur a bien fait en sorte que l'ordre missionnaire qu'il avait donné soit accompli, mais il n'a pas été accompli parce qu'à un moment, les apôtres se sont réunis entre eux et nous ont dit, bon, c'est bien, on a bien évangélisé Jérusalem. Rappelez-vous, le Seigneur nous avait dit aussi la Samarie. Maintenant, on va évangéliser la Samarie. Pas du tout. Le Seigneur l'avait dit, mais il a fallu qu'une persécution intervienne qui a chassé l'immense majorité des croyants de l'église de Jérusalem hors de la ville. Et c'est là qu'ils sont allés de lieu en lieu, dans la Judée et dans la Samarie, et qu'ils y ont apporté la parole de Dieu. Et là, le Seigneur a béni. Par exemple, un certain Philippe a prêché l'évangile dans une ville de la Samarie avec les dons, la puissance que le Seigneur lui a communiqué. Il nous est dit que des malades ont été guéris, que des démoniaques ont été délivrés et qu'une grande foule, là en Samarie, enfin, s'est tournée vers le Seigneur. Et quand les apôtres qui étaient à Jérusalem en ont appris la nouvelle, ils ont dit, bon, on va leur envoyer Pierre et Jean. Et effectivement, Pierre et Jean sont allés là-bas en Samarie parce que le travail avait déjà été fait par la puissance de Dieu agissant à travers Philippe. Et Pierre et Jean, les apôtres, ont imposé les mains aux Samaritains qui se convertissaient à Jésus afin que ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit. Et pour la suite, est-ce que ça a réveillé l'église de Jérusalem en leur rappelant l'ordre du Seigneur? Ah mais oui, on avait oublié. C'est vrai, Jésus nous avait dit d'aller dans la Samarie, et même au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien non. La suite de l'évangélisation des non-juifs, ça a été encore poussé par le Saint-Esprit, mais non pas au niveau d'une initiative claire, consciente, programmée de l'Église. Dieu va parler, tiens, encore à Philippe. Se révéler à lui pour lui dire « Pars sur un chemin, celui qui est désert, qui va vers le sud. » Philippe obéit et quand il se trouve sur ce chemin, il voit un Éthiopien sur son char. Il entend que l'Éthiopien était en train de lire le livre du prophète Ésaïe. À l'époque, les gens lisaient à haute voix, pas comme aujourd'hui, en lisant silencieusement. Le Seigneur lui a dit « Approche-toi de ce char » et Philippe lui a communiqué l'Évangile. C'est ainsi que c'est à nouveau non pas un apôtre, mais un simple croyant qui a été utilisé par Dieu pour aller un petit peu plus loin dans l'accomplissement de la vision missionnaire. Est-ce que là, les apôtres, enfin, l'église de Jérusalem va dire « Ah mais oui, c'est vrai, il y a la mission !» Non, pas encore. Comment ça va se passer? Pierre est bien tranquille, il visite les chrétiens, bien sûr, qui sont à Jérusalem, mais il fait des tournées au-delà maintenant, puisqu'il y a des églises dans la Judée et dans la Samarie. Et pendant qu'il est ainsi sur le territoire d'Israël et dans ces contrées un peu plus éloignées de Jérusalem, mais toujours en Israël, à un moment alors qu'il est en train de prier, il a une vision et le Seigneur lui dit, tu vas aller chez un certain Corneille, c'est un Italien, c'est un Romain, en fait c'est un militaire romain, et tu vas lui prêcher l'Évangile. Pierre y va. Il y va même avec quelques réticences. Je dirais qu'il y va à reculons. Il a fallu que le Seigneur lui montre dans une vision que lui, Pierre, ne devait pas considérer qui que ce soit comme impur. Cette vision, je ne vais pas m'y attarder, c'était pour lui montrer qu'il devait ouvrir son cœur et proclamer l'Évangile aussi aux non-juifs sans avoir de préjugés. Ces préjugés étaient tellement forts que la première chose que Pierre a dit quand il est rentré dans la maison de Corneille, où Dieu l'a envoyé, il a dit, vous savez que normalement, je ne devrais pas rentrer chez un non-juif. C'est la première chose qu'il a dit, au lieu de dire, je suis heureux de venir vous visiter pour vous apporter la parole de Dieu. Mais il ajoute, mais Dieu m'a appris. Et Dieu vient de lui apprendre tout de suite à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Et puis Pierre prêche l'Évangile. Ça a été très court. Il a parlé de Jésus de Nazareth, qui avait accompli des miracles parce que le Seigneur était avec lui. Il était rempli, loin de l'Esprit de Dieu. Et à un moment, c'est dans Actes chapitre 10, verset 43, Pierre va dire quelques mots dont il ne va pas soupçonner l'impact et la puissance. Il va dire, Actes chapitre 10, verset 43, tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent de Jésus le témoignage que quiconque, tout homme, quiconque, croit en son nom, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Il a à peine dit ces mots-là, tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Pierre ne peut pas continuer sa prédication parce que tous les auditeurs sont non seulement convertis, sauvés, mais à l'instant même baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que Pierre a été étonné de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les non-juifs. Est-ce que vous croyez que quand Pierre est retourné à Jérusalem pour raconter ce qui s'est passé, on l'a applaudi ? Pas du tout. On lui a fait des reproches. On lui a dit « Quoi ? Tu es allé chez des non-juifs et tu as été comme ça dans leur maison ?» Et Pierre a été obligé de se justifier. Il dit « Mais vous ne comprenez pas, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a dit d'y aller. Et à peine je suis allé, à peine j'ai commencé à prêcher l'évangile et à peine j'ai parlé de Jésus en disant que tout homme par la foi en lui est sauvé, j'ai pas pu continuer davantage parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Et Pierre s'est justifié en disant « Je ne pouvais pas refuser l'eau du baptême à ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. » Et pour vous dire qu'à Jérusalem, on n'était pas enthousiaste vis-à-vis de la démarche de Pierre, il nous a dit « Quand ils ont entendu cela, ils se sont calmés. » C'est vous dire qu'ils étaient remontés contre l'apôtre Pierre. Vous saisissez, mes frères et sœurs, ce que Jésus a dit au commencement. Mais pourtant, c'était clair. Il a dit « Vous allez recevoir le Saint-Esprit et avec lui, vous serez mes témoins à Jérusalem. » Ça, ils l'ont fait 20 sur 20. Dans la Judée, bon, non, ils ne bougeaient pas tant que ça. Il a fallu que la persécution les pousse hors du nez. Dans la Samarie, pareil. Et jusqu'aux extrémités de la terre, ils étaient à 10 000 kilomètres de penser à ces choses. Ils étaient enfermés dans leurs préjugés, leurs conceptions. Et c'est le Seigneur qui les a poussés à accomplir l'ordre missionnaire. Il y a un tournant dans les Actes des Apôtres par rapport à la prise en compte, la sensibilité à l'ordre missionnaire. Ce tournant, bon, déjà là, il commence à être amorcé un petit peu, vous savez, comme quand vous êtes en voiture et qu'il y a un grand tournant, petit à petit, au fur et à mesure, le paysage change. Mais ce tournant radical, il va être pris à travers du service missionnaire de l'apôtre Paul. C'est de ça que je voudrais vous parler maintenant. Pour préparer ce service missionnaire, il y a une église qui s'est trouvée comme le lieu où Paul va pu enfin commencer à évangéliser pleinement les non-juifs et de là aller encore plus loin avec une vraie stratégie missionnaire. C'est de ça qu'on parle ce matin, hein, de la mission. Cette église, c'est l'église d'Antioche. Alors, on peut retourner à la carte. Parfait. Donc là, on a élargi, hein, la perspective. Parce que, voilà, Jérusalem, c'est ici. La Galilée, la Samarie, voilà, c'est par là. Antioche, à quelques centaines de kilomètres au nord, dans le territoire de l'actuelle Syrie. On change de dimension. Là encore, ah non, ce n'est pas les apôtres qui ont dit, maintenant on a compris, on va aller évangéliser comme le Seigneur nous l'a commandé. Ce n'est pas ça. C'est des simples croyants de l'église de Jérusalem qui avaient été dispersés par la persécution, qui sont allés à Antioche et qui, pour la première fois, se sont mis à parler non seulement aux Juifs qui étaient là, mais aussi aux non-Juifs qui étaient là. C'était la première fois, à part l'expérience de Pierre, à part Philippe en Samarie. Bon, c'était un peu particulier, les Samaritains étaient considérés comme à moitié Juifs. Mais là, pour la première fois, ils ont évangélisé les non-Juifs. Et la parole de Dieu nous dit que dès qu'ils ont commencé à le faire, le Seigneur a béni. Et que de grandes foules se sont converties au Seigneur. L'église de Jérusalem l'a appris. Ils ont envoyé à Antioche un homme de valeur, un homme bon, rempli du Saint-Esprit, avec un cœur bienveillant, un cœur ouvert. Il s'appelait Barnabas. Et sous sa direction, l'église s'est encore accrue. Et de Antioche, Barnabas est allé chercher un collaborateur en la personne de Saul de Tarse. Je m'arrête sur cette personne, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, pour vous montrer comment, avec lui, la mission a pris une nouvelle dimension. Mais Je garde toujours le fil. Je parle de la mission et nous. Vous allez comprendre le lien avec nos églises, avec votre église. En fait, Paul s'est converti d'une manière remarquable parce que le Seigneur s'est révélé à lui alors qu'il s'opposait à l'évangile. Il était un persécuteur. Et au moment même où il s'est converti, le Seigneur a dit à un certain disciple qui s'appelait Ananias à Damas. Alors on peut mettre la diapo suivante avec le texte. Voilà, parfait. Au moment où Paul se convertissait, Dieu a envoyé Ananias, un chrétien, vers lui en disant « Va le voir, ce Saul de Tarse, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il va porter mon nom, c'est ce que le Seigneur lui a dit par la suite, vers des rois, mais aussi vers les non-juifs. » Ainsi, Paul s'est converti à Damas, en Syrie. Et puis, il est retourné peu de temps, très peu de temps, à Jérusalem. À Jérusalem, il a témoigné de sa foi en Jésus-Christ. Quand il a commencé à témoigner de sa foi en Jésus-Christ, les Juifs se sont opposés à lui avec beaucoup de violence. Et le Seigneur lui est apparu et lui a dit ceci dans Actes chapitre 22, verset 20. C'est là où Paul raconte ce témoignage. Le Seigneur m'a dit, sors de Jérusalem, va, car je t'enverrai au loin vers les non-Juifs. Et c'est ce Paul-là qui est allé à l'église d'Antioche, travailler avec Barnabas, une église qui était, on peut le dire, en pointe dans l'accomplissement de l'ordre missionnaire. C'est auprès de Barnabas qu'il a été pleinement formé. Et c'est là, dans cette église d'Antioche, qu'il va se développer encore grâce au travail puissant, efficace, accompli par le Saint-Esprit à travers Paul et Barnabas, qu'un jour, il y a eu un don spirituel dans l'église. Le Saint-Esprit a parlé. Et il a dit, mettez-moi à part maintenant Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et à partir de ce moment-là, ça a été une nouvelle ère. C'était c'est vraiment le commencement, on peut dire, de l'œuvre missionnaire consciente, programmée de l'Église. Avant, c'est le Saint-Esprit qui poussait une personne, d'accord ? Ou quelques personnes. Là, c'est une Église qui va envoyer en mission deux serviteurs de Dieu, deux prédicateurs, en fait, leurs deux meilleurs prédicateurs, les deux principaux prédicateurs de l'Église, pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Et on peut peut-être revenir à la carte, alors, je ne sais pas si c'est la diapo suivante, mais sinon, si vous pouvez revenir, voilà, c'est parfait. Là, de Antioche, Paul, avec Barnabas, va faire un premier voyage missionnaire, annoncer l'évangile à Chypre. Même le gouverneur de l'île va se convertir. Ensuite, ils vont aller dans les provinces de la Galatie, c'est-à-dire le centre de l'actuelle Turquie, implanter des églises. Ils reviennent à Antioche. Deuxième voyage missionnaire, ils repassent par là, visiter ces églises. Ils cherchent à porter la parole de Dieu ici en Asie, mais ils sont comme bloqués, même par le Saint-Esprit, pour le faire. Ils se retrouvent ici, là, à l'extrémité du continent, la pointe occidentale de la Turquie. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, Dieu montre à Paul en vision un Grec qui dit à Paul, « Passe en Macédoine, viens nous aider !» Et là, l'apôtre Paul et ses compagnons comprennent, « Le Seigneur nous appelle à annoncer la bonne nouvelle en Grèce. » Il va là-bas, en Grèce, donc à l'église de Philippe. Ils implantent une église. C'est le deuxième voyage missionnaire. Et puis ensuite, ils implantent une église à Thessalonique. Et puis, ils implantent une église à Corinthe. Gloire à Dieu. Et puis aussi des croyants à Athènes. Troisième voyage missionnaire, après que Paul soit retourné à Antioche. Il va aller, mais cette fois-ci, c'est pas comme il l'avait prévu. Il voulait aller prêcher l'évangile à la capitale de l'Empire. C'est le Seigneur qui avait mis ça sur son cœur. Il va y aller, mais pas comme il avait pensé y aller. Il va y aller dans les chaînes, mais il va aller à Rome évangéliser l'empereur, toute la garde royale, parce qu'il était là enchaîné, et les membres de la garde prétorienne se relayaient régulièrement, et à chaque fois qu'il y avait des nouveaux gardes, ils entendaient le témoignage de l'apôtre Paul. Il va prêcher l'évangile en Italie, à Rome. Gloire à Dieu. Et ça, il ne le fait pas tout seul. C'est là où je veux arriver, mes frères et sœurs. Il ne le fait pas tout seul. C'est là où vous êtes concernés. Il le fait avec les églises. C'est une nouvelle dimension. Ce n'est pas Dieu qui est obligé de pousser quelqu'un, c'est les églises qui prennent à cœur l'œuvre missionnaire Voilà. C'est dommage pour l'église de Jérusalem. Bon, ça a été une église tellement merveilleuse, tellement bénie, c'est glorieux, hein, les premières pages. Mais c'est d'Antioche que c'est parti. Je dis quel privilège, quelle fierté pour l'église d'Antioche. Regardez, je vais vous montrer quelques versets. Alors, on peut revenir au verset, s'il vous plaît. Donc, Paul développe une compréhension plus profonde de l'ordre missionnaire. Les premiers apôtres, bon, ils étaient un peu poussés pour le faire. Alors, on va aller sur Romains chapitre 10, verset... Voilà, parfait. C'est Paul qui écrit, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. C'est l'Évangile. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annonce-t-on si personne n'est envoyé? Attention, hein, on se rapproche des églises, on se rapproche de notre responsabilité missionnaire. Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La référence suivante, Romains chapitre 15, versets 20 et 21. Paul dit, je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Là, enfin, il y a un apôtre, un serviteur de Dieu qui a pleinement saisi toute la dimension de l'ordre, mais que le Seigneur avait pourtant donné au commencement. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Ceux qui n'ont pas entendu parler de lui, ils doivent en entendre parler. J'irai, je leur apporterai l'évangile. Mais Paul ne l'a pas fait tout seul. Ce n'était pas un freelance. D'abord, il travaillait en équipe, mais pas seulement. Il y a une dimension planifiée, une dimension dans laquelle il inclut les églises. Et c'est là que ça vous concerne, mes frères et sœurs, à Istres. On entre dans l'ère des voyages missionnaires soutenus par les églises. Je vais vous le prouver avec la parole de Dieu. Alors, s'il vous plaît, à Antioche, très bien, Actes chapitre 13, verset 3. Quand le Seigneur a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà ce qui est dit juste après, à propos de l'église d'Antioche. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ça, c'est dans la version seconde traditionnelle. Mais c'est le terme est beaucoup plus fort dans le texte original. C'est pas juste qu'ils les ont laissés partir, c'est pas juste qu'ils les, en fait, plus exactement, après les avoir accompagnés. Mais c'est pas juste accompagnés, ils ont fait quelques pas avec eux. Ils les ont accompagnés concrètement, en pourvoyant à leur voyage, en les assistant. Ça a été, on peut le dire, la première église missionnaire. Ils ont envoyé leur pasteur en mission. Ça a dû être difficile, hein. Parce que Paul et Barnabas comme pasteurs, ça devait être comme ça. Une autre église, l'église de Philippe dont je vous parlais tout à l'heure, la première église implantée en Europe dans le deuxième voyage missionnaire par le service missionnaire de Paul, Silas, il y avait Timothée et Luc aussi avec eux. Regardez ce que Paul dit de l'église de Philippe. Donc après avoir quitté Philippe, voilà ce qu'a fait cette église. Non, c'est écrit dans... la lettre qu'il leur écrit, chapitre 4, versets 15 et 16. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, c'est leur région. Aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Il parle de contributions financières. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Les autres n'y pensaient pas. Mais l'église de Philippe réfléchissait comme ceci. Paul nous a apporté l'évangile. L'évangile nous a donné le salut. Maintenant, nous connaissons Dieu. Le Seigneur veut que l'évangile soit répandu dans le monde entier. Paul a reçu cette mission de l'apporter aux autres. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une collecte. Et on va donner cet argent à Paul pour qu'il puisse se consacrer à la prédication de l'évangile. Et que comme il nous a apporté la parole de Dieu, ils puissent le faire ailleurs. Ça y est, on y est. La mission, les églises missionnaires. Et c'est une fierté. D'ailleurs, Paul était fier de l'église de Philippe. Il leur dit, vous savez ce qu'il dit à cette église? Il dit, vous êtes ma couronne. Parce qu'il en a implanté des églises. Mais il dit, vous êtes ma couronne. Je comprends, hein? Une belle église avec une magnifique vision missionnaire. Encore un petit peu plus loin, Romains chapitre 15, verset 23-24, il a toujours des projets. Avant de pouvoir aller à Rome, voilà ce qu'il leur écrit, il leur dit, le texte s'affiche, hein, « J'ai le vif désir de vous rendre visite à vous qui êtes à Rome, quand je me rendrai en Espagne, toujours plus loin, toujours plus loin. En effet, j'espère vous voir en passant et recevoir. » Écoutez bien ce qu'il dit à l'église de Rome, qu'il ne connaît pas encore, qu'il veut visiter. Écoutez bien ce qu'il leur dit. « J'espère vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas, en Espagne, une fois que j'aurai satisfait du moins en partie mon désir d'être avec vous. » Est-ce que, s'il vous plaît, on peut aller à la diapo suivante, la carte ? Voilà. Donc, on part de Jérusalem, la Judée, la Samarie, Antioche, à peine plus loin. Les voyages missionnaires dans le territoire de l'actuelle Turquie. On passe en Europe. Troisième voyage missionnaire, Paul va prêcher à Rome, en Italie. Okay. Avant d'arriver à Rome, il dit, une fois que je serai chez vous, je voudrais, et c'est ça qu'il leur dit, je voudrais que vous m'aidiez dans mon projet d'aller porter l'évangile, où ça ? En Espagne. Pour Paul, l'Espagne, c'est le bout du monde. Mais oui, pour lui, c'est le bout du monde. La Méditerranée, l'Espagne, c'est les extrémités de la terre. Voilà. Il veut y aller avec l'aide de l'église de Rome. Moi, je bénis le Seigneur parce que l'évangile a progressé de l'époque de Paul. Mais c'est quand même remarquable, hein. Quelle grâce, quelle puissante action, quel zèle dans la vie de cet homme et de ses collaborateurs. Il n'était pas tout seul, il travaillait en équipe. Là, en quelques dizaines d'années, ils ont évangélisé tout ça. Gloire à Dieu. Mais moi, je loue le Seigneur aujourd'hui. L'évangile, il est là. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est dans toutes les îles. C'est l'œuvre de la mission. Paul a cette stratégie d'implanter l'évangile dans les grandes villes. Je vais aller très très rapidement. Quand il va dans un territoire, il va évangéliser la ville la plus importante. Dans les lieux qu'il laisse, parce qu'il y a toujours... Je dois aller vers ceux qui n'ont pas entendu. Ceux qui n'ont pas entendu, ils doivent entendre. Je dois y aller. C'est pour ça que le Seigneur m'a appelé. Alors, il laisse les églises. On peut passer, s'il vous plaît, à la diapo suivante avec Actes. Voilà, parfait. Chapitre 14, verset 23. Dans toutes les églises qu'il fonde, il laisse des responsables qui, après avoir prié, jeûné pour eux, il les confie au Seigneur en qui ils ont cru. Il fait pareil avec Paul, avec Timothée, il leur dit, vous allez établir des responsables. Voilà les critères pour que les gens soient responsables des églises. C'est par le ministère de l'apôtre Paul que le mot mission prend le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Ce matin, vous savez, mes frères et sœurs, avec cette petite étude biblique raccourcie qu'on a faite sur la mission dans le Nouveau Testament, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que la proclamation de l'évangile à toute créature, je dis bien à toute créature, c'est pas seulement dans le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Quand des chrétiens le comprennent, Dieu les bénit. Quand ils n'y pensent pas, Dieu les pousse à y aller. Parfois par la persécution. Et quand un homme, enfant, saisit toute cette dimension, alors l'évangile, c'est Paul, hein, l'évangile se répand comme une traînée de feu dans tout l'Empire romain, la région qui était connue de lui en tout cas, et de la majorité des hommes de son époque. Nous devons nous aussi entrer dans le plan de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. La générosité de l'Église, bon, ça passe par l'offrande. Quelque part, tout ce que vous faites dans l'offrande pour l'Église, c'est la générosité, n'est-ce pas ? Mais en réalité, vous le faites pour vous. C'est bien, c'est agréable à Dieu. Vous rénovez le bâtiment, c'est parfait. Ça va permettre que de nouvelles âmes viennent plus facilement dans ce lieu, qu'ils se sentent accueillis. Ce sera la gloire de Dieu, ça va permettre la croissance de l'Église. Mais c'est pour vous aussi, n'est-ce pas ? Vous payez un salaire décent à votre pasteur. C'est une nécessité, c'est biblique. Mais quelque part, c'est vous qui êtes béni. C'est bien, c'est très bien. C'est intelligent d'ailleurs. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si on honore ceux qui peinent à la prédication, ils sont libérés de tout souci, de tout fardeau. Ils servent le Seigneur avec joie et c'est à votre avantage. C'est très bien. Je ne dis pas de faire le contraire. Continuez à le faire. Mais en fait, quand vous vous soutenez financièrement le pasteur par un salaire décent, c'est vous qui êtes bénéficiaire. Mais l'offrande missionnaire, c'est d'un autre niveau, c'est d'une autre nature. Là, c'est plus vous. Vous donnez, et c'est les autres qui sont bénis. Mais c'est une qualité de don à un niveau supérieur. Alors, bien sûr, la mission, c'est pas que la mission aux extrémités de la terre dans les pays autres que la France. On est d'accord, évidemment. La mission, c'est aussi toutes ces multitudes qui, en France, ne connaissent pas le Seigneur. Puis il y a la mission intérieure. Je sais que vous soutenez la mission intérieure. Mais quelque part aussi, c'est un peu c'est notre mouvement des assemblées de Dieu de France qui se bénit lui-même. Et on a raison, on doit le faire, c'est l'ordre du Seigneur. Mais quand on va encore plus loin, au-delà, c'est le don missionnaire. C'est plus pour nous. Et là, vous savez ce qui se passe ? Le Seigneur nous bénit en retour. Gloire à Dieu. C'est pas qu'on fait juste un don pour... C'est bien tout ce qu'on fait. Continuez à le faire et faites-le encore davantage. Mais vous donnez ailleurs. Et c'est le Seigneur qui vous le rend. C'est le Seigneur qui vous bénit. Que son nom soit glorifié. Quelle gloire pour des églises comme Antioche, Philippe, d'avoir été à la pointe. Vous voudriez pas, vous, l'église d'Istre, être une église missionnaire ? Quand même. Ce serait merveilleux pour vous. Quelle belle vision. Regardez cette parole du Seigneur dans l'Évangile. Cette bonne nouvelle du royaume. Alors, on peut mettre la diapo. Cette bonne nouvelle du royaume parfait. C'est Jésus qui dit cela. Elle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Est-ce que, s'il vous plaît, ma sœur, on peut remettre la carte du monde avec l'ordre du Seigneur ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand on aura évangélisé tout ça, tous ensemble, l'œuvre sera accomplie, le Seigneur va revenir. Vous donnez pour l'évangélisation ici, alléluia. Vous donnez pour l'évangélisation du monde, alléluia. Vous hâtez le retour du Seigneur. Voilà, très rapidement, je voudrais vous présenter... Parce qu'en fait, c'est la même mission d'hier à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mettre... la même mission d'hier à aujourd'hui. Vous présentez en deux, trois mots l'œuvre de l'action missionnaire. La diapo suivante, s'il vous plaît. Notre mission, l'action missionnaire, faites connaître l'évangile à tous les peuples. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Accompagner et soutenir les responsables, les pasteurs et les responsables locaux. C'est déjà ce que faisaient les églises du Nouveau Testament à travers le ministère de Paul. Répondre aux besoins spirituels, physiques et sociaux. C'est vrai, on va évangéliser un pays où il y a la misère. On annonce la bonne nouvelle de Jésus. C'est la première chose qu'on doit faire. Mais en même temps, quand on a les moyens d'apporter quelque chose de plus pour permettre à ces gens d'accéder pas juste à un niveau de vie meilleur, c'est pas que ça, mais à se libérer de la misère, parce que c'est terrible la misère quand même, c'est magnifique. Et c'est ce qu'on fait avec l'œuvre de l'action missionnaire. Des dispensaires, des écoles chrétiennes, pour des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui apprennent à lire, à écrire, à compter plus que ça, qui ensuite peuvent apprendre à avoir un métier, devenir des cadres. Ça, c'est une vision magnifique. C'est ce qu'on fait. Quand vous donnez pour l'action missionnaire, c'est ça que vous soutenez. C'est ça. La formation des pasteurs, des serviteurs de Dieu, la traduction de la Bible, voilà. La diapo suivante, l'action missionnaire est à l'œuvre dans plus de 30 pays, mais on a des missionnaires présents. Alors non, pardon, c'est la diapo, voilà, c'est ça, c'était celle-ci. On a des missionnaires des Assemblées de Dieu de France, en Algérie, encore au Burkina. Alors, Cambodge et Gambie, en fait, c'est dans une couleur différente parce qu'on n'a pas des missionnaires français là-bas, mais c'est la mission française qui soutient des ouvriers de pays où on a des missionnaires. C'est nous qui soutenons des pasteurs de ces pays-là pour aller là-bas. Par exemple, en Gambie, c'est un pasteur sénégalais, où nous, on a un missionnaire, un pasteur sénégalais que la mission française soutient pour y prêcher l'évangile. Donc, c'est aussi quelque part notre œuvre. Idem, le Cambodge, c'est un pasteur, des pasteurs vietnamiens, je crois, qui sont soutenus par la mission française. Et donc, nous, on a des missionnaires au Vietnam. Donc, on a un missionnaire en Israël, des missionnaires au Sénégal, au Tchad, au Vietnam. Gloire à Dieu. Et puis, voilà, la dernière diapo. L'action missionnaire s'inscrit dans le long terme. Bâtir des églises, bon, c'est les bâtiments, bien sûr, mais aussi des mouvements nationaux. Comme faisait Paul.
comme faisait Paul. Il implantait une église et puis il établissait des responsables, des pasteurs, pour qu'ils continuent le travail. C'est ce qu'on fait. Et c'est la même mission d'hier à aujourd'hui. Les fruits, vous savez, la France, en fait, on est un petit pays. Hein. Si on se compare au nombre de missionnaires des États-Unis, c'est rien du tout. Mais le Seigneur a béni notre petit pays. Nos petites églises évangéliques françaises ont fait un travail missionnaire, mais c'est au-delà de la dimension qu'on aurait pu imaginer. Des hommes sont partis à l'île de la Réunion. Un pasteur est parti à l'île de la Réunion. Des multitudes là-bas connaissent le Seigneur. Le réveil a dépassé en ampleur dans les territoires d'outre-mer ce qu'il connaît en France. C'est la même chose que tu connais bien pour les Antilles. En Afrique, on a envoyé des missionnaires, d'abord au Gabon, et puis aussi au Burkina Faso. Le réveil a atteint là-bas. On n'était pas tout seul, bien sûr, on a collaboré avec d'autres missions, mais là-bas, il a atteint une dimension des multitudes. Des multitudes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues, les historiens qui disent aujourd'hui que dans ces pays-là, dans les gens qui se réclament du christianisme, le pôle évangélique, comme nous, et en particulier ceux qui croient à la Pentecôte, est en train de se substituer à ce qu'on appelle la chrétienté d'origine catholique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les historiens, ce sont les sociologues. C'est l'œuvre de la mission. Voilà, je voulais être court ce matin, mais vous laissez ce fardeau de la part de Dieu. Vous soutenez beaucoup de choses, n'oubliez pas la mission. Puis Dieu ne va pas vous oublier non plus. Que Dieu vous bénisse. Amen.